Cours de philosophie première par le père Philippe à Saint-Jodard, le 3 octobre 1991.
Regardez ce qu'elles sont en tant qu'elles existe, c'est vraiment regarder dans ces réalités ce qu'il y a d'ultime. Là, vous voyez, c'est ça le point de vue particulier de cette philosophie, c'est que justement, à la fois, elle est radicale, fondamentale, et elle est en même temps ultime, l'alpha et l'oméga, parce qu'elle touche l'esprit. Enfin, c'est ce que Aristote découvrira de plus en plus, c'est que cette philosophie première touche l'intelligence, le nous. C'est très difficile à traduire. Le mot qui traduit le mieux, c'est intelligence. Mais quand Aristote dit intelligence, il ne parle pas du tout de la raison. La raison, c'est une intelligence qui raisonne. L'intelligence du nous, c'est l'intelligence qui saisit, qui juge, qui discerne. Et c'est une intelligence qui est appelée à la contemplation. Tandis que la raison ne contemple pas. Mais c'est la même puissance qui en nous raisonne et contemple. En ce sens-là, la philosophie première, elle est science de ce qui est en tant qu'il est. Et elle est en même temps sagesse. Ou plus exactement, cette science devient sagesse. Et elle devient sagesse dans la mesure où, regardant ce qui est en tant qu'il est, elle atteint, elle cherche à connaître les réalités, Aristote dira les substances séparées, et dans les substances séparées, Dieu, l'être premier, qui s'appelle Dieu. Donc vous voyez, c'est à la fois ce qu'il y a de plus fondamental, et on pourra le préciser, et en même temps ce qu'il y a d'ultime. En ce sens que par l'être, on atteindra le bien. Mais on pourrait dire la sagesse regarde le bien, la cause finale. Et le point de départ de la philosophie première, c'est d'atteindre ce qui est. Et ce n'est pas deux sciences distinctes. C'est là où il y a eu beaucoup de discussions dans les interprétations d'Aristote. On a dit Aristote n'est pas précis, puisque la science de ce qui est ne va pas être en même temps sagesse du bien. On essaiera de comprendre ça. C'est un très gros problème, c'est évident. Mais le bien peut être saisi en tant qu'être, et le bien peut être saisi en tant qu'il est mon bien. En tant qu'il est mon bien, c'est l'éthique. En tant qu'il est convertible avec l'être, c'est bien la métaphysique qui atteint ce qui est ultime dans ma connaissance, le bien premier, l'être premier. Pour le moment, regardons simplement, puisque c'est essayer de comprendre comment est né cette science particulière qu'on appelle philosophie première. Alors, j'ajoute tout de suite, pour qu'il n'y ait pas d'équivoque, le mot science, épistémé chez les Grecs, a une signification très particulière chez Aristote. C'est Aristote qui lui a donné, de fait, dans les secondes analytiques, dans sa logique, ce que regarde pour pour lui l'épistémée, c'est une connaissance parfaite. Et c'est la connaissance par les causes. Et c'est pour ça qu'Aristote aura un souci très particulier de découvrir qu'est-ce que c'est que les causes. Tandis que le mot « science » progressivement a pris une signification différente. Science, aujourd'hui, c'est la connaissance des lois. Alors, il faudra progressivement comprendre la différence entre la saisie des causes et des principes et des lois. La loi, c'est un rapport de nécessité et le principe est quelque chose de premier. Ce n'est pas un rapport, ce n'est pas une relation d'antécédents et de conséquents. Et c'est pour ça que le mot science est souvent pris de façon si équivoque. Parce qu'il a de fait, au cours des années de réflexion humaine, il a pris une signification très différente. Du reste, c'est le mot philosophie. Le mot philosophie première, donc le mot philosophie, Platon l'emploie, et pour lui, philosophie égale dialectique, égale science. La science, pour lui, c'est la dialectique. Pour Aristote, la science, c'est la recherche des causes. Tandis que la dialectique reste un aspect de relation, au sens tout à fait rigoureux, il n'y a pas de premier dans la dialectique. On creuse de plus en plus le point de vue des relations. Donc, pour Aristote, la science, la philosophie première, regarde ce qui est en tant qu'il est. On l'appellera métaphysique, parce que c'est un point de vue très utilitaire. Elle vient après la physique, parce qu'elle est première du côté perfection. On l'appellera ensuite, au XVIIe siècle, ontologie. L'ontologie. Avec Heidegger, on l'appellera ontologie fondamentale. Et Heidegger dira que la métaphysique a terminé son temps. On assiste à l'enterrement solennel de la métaphysique avec Heidegger. Il ne faut pas l'oublier dans notre philosophie de l'Europe. Il reconnaît que la métaphysique a dû exister, que c'était très bien qu'elle existe, mais que maintenant, c'est fini. Il faut découvrir autre chose, l'ontologie fondamentale, qui pour lui est penser l'être. Ce n'est pas une science, c'est penser l'être. Ce n'est pas une contemplation. C'est très particulier, c'est très spécial. Mais il faut reconnaître que Heidegger a eu ce privilège de vouloir reprendre un regard sur l'être. Alors que de fait, c'est vrai. On regardait beaucoup plus tout l'aspect dialectique, tout l'aspect du mouvement, du devenir, et que l'aspect de l'être avait disparu. C'est pour ça qu'il parle de l'oubli de l'être. Et pour redécouvrir l'être, il prend une ontologie fondamentale. Vous voyez, ontologie, c'est le logos de l'être. Ça vient du grec, hein? Ontos, logos. Donc le logos, c'est la connaissance intellectuelle de l'être. Donc ontologie exprime bien connaissance de l'être. Alors pourquoi on dit ontologie? C'est parce que le mot métaphysique était déjà assez lointain et surtout qu'il était scolastique. On a voulu sortir de la scolastique par l'ontologie pour redécouvrir une philosophie qui ne soit pas scolastique, je crois. Alors, avec l'ontologie, on est tombé très souvent dans ce qu'on appelle l'ontologisme. C'est une question de mots. Je vous dis ça parce qu'il y a un vocabulaire propre à la philosophie qu'il faut découvrir progressivement. L'ontologisme qui sera, de fait, vous voyez, dès qu'il y a un J, l'ontologisme, c'est le défaut. Ça veut dire une connaissance qui se développe dans l'immanence. Et dans l'ontologisme, on retrouvera la confusion fondamentale de Platon, c'est que l'intelligibilité égale être. Et on passera de l'intelligibilité à l'être. Et cette erreur de l'ontologisme, on la retrouve pratiquement dans toute la philosophie européenne jusqu'à nos jours. Et on pourra distinguer un ontologiste de droite et un ontologiste de gauche. Et ça, on verra progressivement ces choses-là. Simplement pour vous montrer que de fait, il y a une espèce de constante qu'on retrouve un peu tout le temps. L'intelligence est faite pour découvrir ce qui est. Et saint Thomas exprimera ça d'une manière extrêmement forte en disant que primo cadit in intellectum. Alors, c'est une sorte de, je ne dis pas d'axiome, mais presque, c'est une affirmation constante chez saint Thomas. Il y a un étudiant de la Grégorienne qui a fait une petite thèse là-dessus pour voir combien de fois saint Thomas l'avait employé. Je crois que c'est 176 fois. Donc ça revient tout le temps. Alors, je l'écris. Primo cadit in intellecto ens. Alors il faut traduire. C'est intéressant. Ça ne vient pas directement d'Aristote. Aristote n'a jamais dit ça. Ça vient d'Avicenne. Alors Avicenne, vous savez, philosophe arabe qui, de fait, a fait une sorte de mixture très particulière entre l'aristotélisme et le néoplatonisme. C'est intéressant parce qu'au fond, c'est une espèce de désir constant vouloir unir ces deux grands génies, Platon et Aristote. Oui. Alors, le matin, on est aristotélicien, et le soir, on est platonicien. Normalement, le matin, on est plus réaliste. Et le soir, on commence à rêver. Alors, on est platonicien. Et au fond, il y a ça. Et le père dominicain que je connais bien, qui maintenant est parti pour le ciel, et qui était professeur de métaphysique à la Cato de Paris, la dernière année avant de quitter, il avait posé le problème, ne peut-on pas unir la philosophie d'Aristote de l'être et la philosophie de l'esprit de Descartes? Faire le lien entre les deux. Ça, c'est un très gros problème, si vous voulez, au point de vue philosophie européenne et, j'allais dire, philosophie tout court. Parce qu'on retrouve ce problème dans l'Inde. Je ne suis pas du tout spécialiste de la philosophie de l'Inde. J'ai très bien connu Olivier Lacombe, qui lui est un spécialiste. Et quand on parlait ensemble, on essayait de voir le parallélisme entre l'Inde et la philosophie de l'Occident. On trouvait qu'il y avait des parentés. Aujourd'hui, on voit très bien cette parenté avec Platon, pas chez Aristote, avec Platon. Mais on retrouve un courant aristote, du moins, réaliste dans la philosophie de l'Inde, analogue à Aristote. Autrement dit, je crois que ce sont les deux formes d'esprit. La forme platonicienne et la forme aristotélicienne. Alors on a dit platonicienne, la forme féminine, et Aristote, la forme masculine. Mais c'est pas vrai, parce qu'il y a des quantités d'hommes qui sont platoniciens. Du reste, Platon l'est. Et Platon n'aime pas tellement la femme. Donc on voit bien que c'est pas vrai de dire ça. Ce qui est beaucoup plus vrai, c'est d'essayer de saisir les alliances fondamentales de l'intelligence. Mais ça, c'est un problème critique. Comment se fait-il que, de fait, on retrouve tout le temps ces deux formes de la philosophie? Alors, il faudra se dire, pourquoi on opte Aristote et pas Platon? On retrouve ça, c'est intéressant de voir que dans l'Inde, et on retrouve encore actuellement, et en Amérique, c'est la même chose. Quand je parle de la philosophie européenne, je pourrais parler de la philosophie américaine, on retrouve exactement les mêmes choses. Il y a deux formes d'esprit. C'est pas irréductible. Il y a deux formes d'esprit. Alors, on est plus porté vers l'une ou plus porté vers l'autre. Je reviendrai dans un instant. Je regarde d'abord ça. Primo cadit. Intellectu. Donc, le mot kadit vient de l'arabe. C'est très connu, parce que kadit, hein, veut dire tomber. Alors ça tombe dans l'intelligence, tomber dans le puits. Le puits est profond. On jette un petit caillou pour voir justement comme il est profond. L'être ne tombe pas comme un petit caillou dans l'intelligence. L'intelligence étant, selon le langage de Saint Jean de la Croix, une caverne, alors à ce moment-là, le petit caillou qui tombe dedans, qui est l'ens, vous voyez, l'être, tombe dans l'intelligence, primo, en premier lieu. Donc je traduirai, en premier lieu, ce qui tombe dans l'intelligence, c'est ens. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, qu'est-ce que l'intelligence atteint en premier lieu? Ens. Alors ici, en premier lieu, c'est à la fois dans l'ordre génétique et dans l'ordre de perfection. Ce qui me permettrait de dire, si ceci est vrai, et je le crois profondément, et même j'en suis sûr, ce qui me permettrait de dire que la philosophie première est première génétiquement, et dans l'ordre de perfection, alpha et oméga. Mais pas comme philosophie, comme connaissance. Ce qui permettrait de comprendre que la métaphysique, que la philosophie première, est la connaissance la plus humaine qui soit. Elle est surhumaine, et parce qu'elle est surhumaine, elle est parfaitement humaine. Et ça, c'est intéressant à saisir, parce qu'au fond, ça montrerait que la philosophie première, c'est retrouver ce qu'il y a de tout à fait premier dans l'ordre de la connaissance humaine. Ce que je crois. Retrouver l'aspect naturel de l'intelligence. On est naturel. naturellement métaphysicien. C'est pour ça que les gosses posent des questions métaphysiques. Mais cette question de ce qu'une mère m'a rapporté, je connaissais, il avait 40 ans, sa mère m'a raconté, quand il avait 4 ans, un beau jour, je lui sers sa soupe. Et puis je vois tout penseur. Je dis, à quoi tu penses? Maman, qu'est-ce que c'est que l'éternité? Question métaphysique, évidemment. Qu'est-ce que c'est que l'éternité? Alors sa mère lui dit, écoutez, prends ta soupe. Avant de découvrir ce que c'est que l'éternité, parce qu'autrement elle sera froide. Et puis la mère s'en va parce qu'elle m'occupe. Plongée dans l'éternité. Elle revient au bout de quelques minutes. Elle le voit manger sa soupe. Alors elle lui dit, alors, tu as trouvé? Oui, maman. L'éternité, c'est ça. Il prend son rond de serviette. L'éternité, c'est ça. Le rond. Où le commencement et la fin se rejoignent. Et le rond est le symbole de l'éternité, le cercle. 4 ans. Mais on devrait mettre là devant, n'est-ce pas, tous les petits gosses de 4 ans, ils écouteraient la métaphysique, oh, oh. Et puis ils poseraient des questions, vous savez, comme les gosses. La pauvre mère ne savait pas répondre, n'est-ce pas, et lui, il cherchait. Et c'est vrai, vous voyez, les enfants posent des tas de questions. C'est l'éveil de l'intelligence. Puis là, ils en posent tellement que les mères sont fatiguées. Tais-toi, tais-toi. Alors, l'aspect conventionnel fait qu'on ne pose plus de questions. Et on ne pose plus que le comment. Alors, c'est ça qui est très intéressant. Ça, il faut le savoir par cœur. On a fait une antienne liturgique une fois là-dessus. Primo caditi intellectu ens. Vous voyez, c'est l'être, ce qui est, qui tombe. C'est-à-dire que l'intelligence reçoit, l'intelligence est passive. Elle se laisse imprimer par l'être. Alors, l'ens, c'est au-delà de toutes les déterminations, ce qui est. Et ça, je vous dis, certainement, on le répète. On pourrait ramener tout ce que saint Thomas dit à cela. À ce point de vue-là, vous voyez, il y aurait un parallélisme entre Heidegger et Thomas d'Aquin, en disant que, oui, c'est vraiment la recherche de ce qui est de l'être. Alors Heidegger dirait l'être. Saint Thomas dit ce qui est. Mais tout le réalisme de Saint Thomas et tout l'idéalisme d'Heidegger. Parce que l'être, hein, il n'a jamais touché l'être. Puis à un moment donné, il disait qu'il fallait avoir 40 degrés de fièvre pour voir l'être. C'est-à-dire un petit nuage qui passe, là on voit l'être. Mais tandis que ce qui est, je le touche. Ceci est. Mais ça, alors qu'a dit donc, c'est l'être qui vient spécifier, j'aime mieux dire spécifier, l'intelligence. Ça tombe dans l'intelligence, en premier lieu. Le primo, en mettant en parallèle philosophie première. C'est la philosophie de l'ens. Alors, ici, je suis au niveau de la connaissance, ici, je suis au niveau de la réflexion philosophique. Donc, de la science de l'être. La philosophie part de l'expérience. Les expériences sont multiples, internes et externes. Il faut toujours se rappeler ça. Le mot expérience a des significations très très diverses. Vous voyez qu'on parlait de l'expérimentation. Ce n'est pas l'expérience première, c'est une expérience seconde. Je refais une expérience. justifié. Tandis que l'expérience, quand vous regardez quelqu'un, première fois, vous regardez un gosse, vous regardez un paysage, vous regardez un clair de lune, vous regardez un coucher de soleil, l'expérience, tout mon être est éveillé. C'est l'intelligence liée aux sensations. Et l'expérience interne, c'est l'intelligence liée à l'affectivité, c'est l'intelligence liée à l'imaginaire. C'est ce qui est le vécu. J'ai un vécu en moi. Quand vous méditez, la méditation, pas l'oraison, la méditation implique ce vécu. Donc, distinguons bien toujours expérience interne, expérience externe, et comprenons que l'expérience au sens fort, c'est l'expérience qui implique l'alliance de l'intelligence et des sens. Le toucher, le sens le plus réaliste. Mais il est évident que toute expérience externe charrie une expérience interne. Toujours. Mais je la dépasse. Mais je peux m'arrêter à l'expérience interne. J'aurai là comme deux sources constantes. Comme expérience. Mais ma philosophie qui cherche à atteindre la réalité, ce qui est, implique cette expérience externe. L'expérience éveille mon intelligence. Si je n'ai pas d'expérience, mon intelligence continue de dormir. Ordinairement, c'est vraiment l'expérience qui éveille l'intelligence. Et à partir de là, l'intelligence interroge. Il y a quelque chose de très important à bien saisir, c'est ce passage de l'expérience à l'interrogation. Pour Aristote, c'était très important. Pour Socrate, c'était très important. Socrate, c'est le philosophe qui interroge. Bon, c'était le maître de Platon, et par le fait même le grand-père d'Aristote. Et Aristote prétend être plus fidèle à Socrate que Platon. Plus fidèle au grand-père. On voit très bien ça. C'est intéressant. Qu'est-ce que c'est que l'interrogation? Qu'est-ce que ça représente, l'interrogation? C'est très important parce que c'est par là que je comprends la naissance de la philosophie première. Je saisis le réel, tu vois, je saisis la réalité. Je la saisis par l'expérience de multiples manières. Toutes les réalités que je regarde autour de moi sont des réalités qui sont en mouvement, qui sont corruptibles. Mon corps est corruptible, c'est sûr. La réalité que je touche, la terre, est corruptible, elle change. Et cependant, à travers toutes ces réalités, mon intelligence dit ceci est. Oui, comment de l'expérience naît le jugement d'existence ? Lié à l'expérience. C'est en ce sens-là que je peux dire que le jugement d'existence est une méta-expérience. C'est un au-delà de l'expérience. Et c'est une expérience qui n'est plus une expérience au sens propre, l'alliance de l'intelligence et des sens. C'est l'intelligence qui pénètre dans la réalité expérimentée ce qu'elle est. Se toucher de la l'intelligence à l'égard de l'être, de ce qui est. Et primo caditi deitus es. Ce premier moment où l'intelligence, à travers une expérience, dit ceci est. Je crois cela capital. De fait, la philosophie première a perdu son réalisme au moment où ceci est a été traduit par certains théologiens et certains philosophes, mais c'est beaucoup moins net chez eux, par le fait que l'être est considéré comme quelque chose qui est donné. Datur, en allemand dira, et Heidegger le dira, es gibt, un donné. Oui, à la place de toucher ce qui est, on considère le donné, un donné de fait. C'est un mur. On ne dira pas « il est », on dira « c'est un mur ». Ça n'a l'air de rien, mais c'est ça qui est très important à souligner, parce que c'est la petite erreur initiale de la source, le Rhin et le Rhône. Alors on va dire que le Rhin, c'est la philosophie de Thomas d'Aquin, et le Rhône, c'est Heidegger, vous voyez. Le Rhin et le Rhône. C'est une image, hein, ce que je vous donne là. C'est bien évident, c'est même symbolique, avec un symbolisme très particulier. Quand je dis ceci est, je suis bien obligé d'utiliser le langage. Ce que je pense, je le traduis par mon langage. Mais mon langage, s'il est un langage vivant, est toujours pensé. Quand je dis ceci est, je peux mettre l'accent sur « et », je peux mettre l'accent sur « ceci ». C'est intéressant parce que c'est cela que Raïssa appellera, Raïssa, l'épouse de Maritain, appellera l'intuition de l'être. Quand Raïssa, j'ai encore connu Raïssa, Raïssa était une Russe juive, remarquablement intelligente, et poète, et mystique. Maritain a dit que toutes ses inspirations venaient de Raïssa. C'est pour ça qu'il l'avait épousée. Et c'est vrai, quand Raïssa est morte, Maritain dit c'est fini. Il s'est mis dans la dévotion. C'est fini. Il n'avait plus l'inspiration. Et Raïssa dit qu'elle a eu l'intuition de l'être lorsqu'elle a vu le petit chat. Elle avait un petit chat, timide. Et puis elle dit, ce chat existe, j'existe. Comment ça se fait? J'existe et le chat existe. Il y a quelque chose de commun, vous voyez, le communisme fondamental. C'est que le chat existe et j'existe. Et nous existons chacun d'une manière totalement différente. En grec, on dira allo, allo, autre, autre. D'une manière totalement différente. Alors, et pourtant, il y a quelque chose de commun. Là, c'est ce petit quelque chose de commun qui donne l'intuition de l'être. Pour Raïssa et pour Maritain. Maritain parle de l'intuition de l'être comme justement ce qui permet de dépasser tout le domaine courant habituel, et que seul saint Thomas a eu l'intuition de l'être, Aristote ne l'a pas eu, et Jacques Maritain après, et puis Heidegger, mais à sa manière aussi. Alors voyez, quand je m'y associais, Ceci, c'est le nom. Point de vue grammaire. Et le verbe. Grammaticalement. Et relatif à ceci. Le verbe est relatif au mot. Le nom, il reçoit le verbe. Ceci, ça peut être Pierre. Ça peut être Pierre, ceci. Ça peut être la vache. Ça peut être le chat. Ça peut être Aïssa. Ceci. Ceci est. Le nom. Le nom est très variable. Et. Au point de vue du nom, c'est toujours est. C'est le même. Dans sa signification profonde, ça varie. Puisque l'être de la vache n'est pas celui de l'homme et de Pierre. L'être de la vache n'est pas l'être de la table. Oui, c'est très élémentaire ça, mais c'est capital. Et c'est intéressant de voir que dans l'histoire de la philosophie européenne, il y a un moment où tout a changé. Alors, je peux regarder « et » comme relatif à ceci, c'est le point de vue grammatical. Si je pense la signification profonde de « et », je vois que « et », c'est au contraire ce qui permet à ceci d'être. Ceci, tout court, ceci peut être une montagne d'or. Ça peut être une déesse. Ça peut être une fée. Ça peut être l'idéal. Donc ça peut très bien ne pas exister. Donc ceci peut être séparé de et ne pas exister. Être simplement une idée. Une image, ceci. Donc, au point de vue de la pensée, et au point de vue du réalisme, de la réalité, c'est le verbe être qui est la chose principale. Donc, j'ai ce mouvement-là. Ceci est relatif à et. C'est et qui donne à ceci toute sa valeur. Alors, voyez la différence entre l'aspect grammatical et l'aspect pensée. Voyez comment le langage, qui est un instrument de communication, je dis ça parce que nous aurons à penser durant toute l'année, vous savez bien, c'est la grande question de Rimon et d'ici. Pendant toute l'année, on réfléchira sur ce que c'est que la parole de Dieu, en face de toute l'exégèse contemporaine. C'est très important. Et pour nous, ici, puisque c'est la philosophie, on essaiera de penser qu'est-ce que c'est que la parole. Instrument de communication. Alors, je signale tout de suite ce point de vue-là. C'est que la pensée, le langage, instrument de communication, je parle pour vous. Normalement, je ne parle pas pour moi. Quelquefois, on parle pour soi, pour donner du courage. Pour se réveiller, alors on parle tout haut. On fait une lecture tout haut, je m'endors, je vais parler tout haut, ça réveille. Ou bien quand on a très peur la nuit, on parle. Alors au moins, il y a quelque chose qu'on entend. Et ça nous donne du courage. Avec le silence, oh là là, un silence mortel. Et on attend que quelqu'un arrive tout d'un coup. C'est pour ça qu'il vient silencieux. Il se venge. Oui, le silence peut faire peur. C'est le vide. La parole, au moins, il y a quelque chose. Alors, la parole est un instrument de communication. Je vois que cet instrument de communication n'est pas adéquat à ma pensée. Tout de suite. Et ça, c'est capital de comprendre ça. Et je le comprends en prenant Ceci, ce qu'il y a le plus simple, le jugement le plus simple qui existe, c'est ceci est nu. Il n'y a pas de jugement le plus simple. Et voyez tout de suite que ceci est peut se comprendre de deux façons. Ça peut se comprendre de deux façons. Ou, j'insiste, ceci est. Ou, tout de là, ceci. C'est bien évident qu'il existe. C'est pour ça que certains fémologues aujourd'hui disent que c'est la même chose, ceci et ceci est. Il y a comme ça un dialogue à Fribourg qui était extrêmement intéressant avec un autre professeur qui pendant indéfiniment disait que c'est exactement la même chose de dire ceci ou ceci est. Et moi je prétendais non. C'est pas la même chose de dire ceci existe ou de dire ceci. Et lui, impossible. On discutait des heures et des heures, impossible. Je dis, mais quand même, quoi, faites l'expérience, ceci, ça peut être n'importe quoi. Non, mais pourquoi? Parce qu'on était entre parenthèses l'être dans la fémologie. Pour mettre en pleine lumière ceci. Et comme c'est curieux, et c'est intéressant de réfléchir là-dessus, parce qu'on voit tout de suite que le langage n'est pas adéquat à la pensée. Que le langage provient de la pensée. La pensée est antérieure. Je communique ma pensée par le langage. C'est très infirme. Si je pouvais vous projeter dans votre esprit ce que je pense, c'est comme ça irait vite. Petite infusion. Et puis on verrait l'intelligence qui grossit. Parce qu'elle se nourrirait. Tandis que je suis obligé de prendre le langage. Le langage qui est sensible. Alors, je vois tout de suite ça. Ça, c'est le jugement d'existence. Je peux très bien mettre en pleine lumière et dire, mais ceci, oui, peut-être n'importe quoi. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'est-ce que c'est que est. Qu'est-ce que c'est que est. Ceci, c'est la vache, c'est l'homme. Je connais très bien ça. J'ai l'expérience de la vache. J'ai l'expérience de l'homme. Quelquefois, je dis que la vache est meilleure que l'homme. C'est vrai, c'est le petit toutou, un petit toutou d'une fidélité. Tandis que l'homme, infidèle. Donc, on peut très bien. Mais ce qui est important, ça, qu'est-ce que c'est que est. Et je m'étonne. Je suis dans l'état d'admiration de voir que j'emploie le même verbe pour pierre, vache, table, toutes les réalités. C'est extraordinaire, ça. Comment ça se fait? Le même verbe qui, chaque fois, a une signification différente. Alors là, je vois la pauvreté, évidemment, du langage, c'est sûr. Mais il y a autre chose. Je m'aperçois que, de fait, ce verbe être, si je veux savoir ce qu'il est, parce que je suis dans cet état d'admiration, de voir que est prend toutes ses significations différentes, de multiples significations, je me pose la question. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce? Oui, j'interroge. Qu'est-ce l'être? Je passe du présent à l'infinitif. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ceci est. Qu'est-ce que c'est que l'être? Voyez donc qu'à ce moment-là, vous donnez à est une valeur nouvelle. Puisqu'à la place de le regarder relatif à ceci, vous le regardez pour lui-même. Vous le thématisez, comme on dit, dans le langage philosophique moderne. On le thématise, on le regarde pour lui-même. On lui donne une valeur unique. On le sépare de la vache à coup de couteau. On le sépare de l'homme un coup de couteau, des lettres. Il regardait pour lui-même. C'est très extraordinaire, ça. Et si je suis attentif, je passe du concret à l'abstrait. Ceci est, c'est concret. L'être. Qu'est-ce que c'est que l'être? Montrez-moi où est l'être. L'être, il est dans Pierre, il est dans la vache, il est dans la table. J'abstrais. Formule abstraite, oui, je passe blanc, blancheur. Pour mettre l'être en pleine lumière, je l'abstrais de tous les soucis concrets dans lesquels il existe, dans lesquels il est. C'est très important de comprendre ça. Vous voyez, je passe, en latin, on dira de ens à esse. C'est saint Thomas qui dit ça. Ens à esse. L'être, c'est la force du verbe infinitif. C'est qu'il peut être considéré pour lui-même. Tandis que le présent, jamais. Il est pris au concret. Alors c'est cette constatation très curieuse que le verbe dans le langage est lié au temps. Tandis que le nom n'est pas lié au temps. Ceci, ça peut être éternel. Tandis que le verbe être, tous les verbes, marcher, travailler, c'est lié au temps, présent, passé, futur. J'abstrais donc le verbe du temps. Ce qui est hérésie, hein? Parce que je viens de dire que le verbe est toujours lié au temps. Et je l'abstrais du temps. Pour le regarder dans sa signification radicale et première. Qu'est-ce que c'est que l'être? Et vous voyez, c'est dans l'interrogation. Qu'est-ce que c'est que l'être? Que, à ce moment-là, je vais entrer en philosophie première. C'est l'interrogation qui introduit dans la recherche. L'interrogation en philosophie est analogue à l'hypothèse en science. En science, il faut faire une hypothèse pour chercher. Tant qu'il n'y a pas d'hypothèse, vous ne cherchez pas. Quand on fait une thèse en physique, en astronomie, on se pose une question, une interrogation, une hypothèse. Tant que je pense cette hypothèse, mais même en philosophie, je vais choisir un sujet de travail, hypothèse. Et c'est très important de choisir une bonne hypothèse. Parce que si vous avez une hypothèse dans laquelle il n'y a pas de solution, je cherche indéfiniment. Tandis que si vous avez déjà quand même saisi quelque chose, votre hypothèse vous permettra de saisir quelque chose, de découvrir quelque chose. Mais c'est très intéressant de voir la naissance du point de départ de la recherche. Et si l'être est vraiment ce qui tombe en premier lieu dans l'intelligence, je vois comment l'intelligence peut être en recherche. Platon dira que l'interrogation, c'est l'intelligence qui est comme un chien de chasse. En face d'un fourré, il y a du gibier, il le sent. Il y a un lapin, là. Il est en arrêt. L'interrogation, c'est l'intelligence en arrêt. C'est très beau, du reste, imaginativement. C'est l'intelligence en arrêt. L'intelligence suspendue. Elle saisit quelque chose, et puis en même temps, elle ne connaît pas. D'où elle interroge. J'ai saisi quelque chose, puisque j'ai saisi ceci est. L'homme existe, Pierre existe, la vache existe. Je saisis quelque chose. Et en même temps, comment se fait-il que l'être peut prendre toutes ces modalités différentes? Qu'est-ce que c'est que l'être? Alors, je l'isole pour le regarder pour lui-même. Donc, le jugement d'existence, point de départ de l'interrogation de l'être. Et à un moment donné, chez des théologiens, à la place de dire ceci est, on a dit datour. Datour, ceci est donné. C'est le fait. On reste devant le fait. Il n'y a plus jugement d'existence qui atteint l'être. On ne voit plus que ceci. Et je vous dis, jusque chez Heidegger, Heidegger qui veut être au-delà de la scolastique et rester dépendant d'Occam. Parce que c'est Occam qui a dit ça en premier lieu. On reviendra sur Occam, parce que ça reviendra de temps en temps. Parce que c'est une bonne tête sur laquelle on se heurte constamment. Il était franciscain à Londres, en Angleterre. Un bon franciscain. Alors, le jugement d'existence pour lui, c'est le datour. Pourquoi ? Parce que pour lui, avant le jugement d'existence, il y a l'idée. Il y a une idée. On a l'idée d'être. Quand on est dans son berceau, l'idée d'être vient du ciel. Avant l'expérience, il y a l'idée d'être. On a une idée avant. On a une idée de notre intelligence. On a une idée de notre conscience. Avant le jugement d'existence. Avant de se heurter à la réalité. Et on regarde si cette idée est réelle. Et on dit, datour, oui, c'est bien, c'est un fait. Oui. Donc le jugement d'existence, c'est la vérification d'une idée. Voilà, c'est un fait. J'ai l'idée de la montagne d'or. Tant que je n'ai pas découvert, je ne sais pas si elle existe. Je la découvre. Ah, ça y est. Alors vous voyez qu'à partir de là, on verra. J'allais dire, c'est ici le positivisme qui s'introduit en philosophie et en théologie, avec Occam. Le fait est simplement la vérification que l'idée que j'ai est une idée qui est bonne. C'est une idée qui est bonne. Je peux y aller. Mon cheval est bon. Datour, c'est donné. Mais je n'ai aucune connaissance de l'être. J'ai la connaissance de l'idée. Et je m'enferme dans mon idée. C'est à partir de là, vous voyez, que de fait, on verra deux types de philosophie. Celle où le jugement d'existence est premier, celle où l'idée est première.